une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Pour être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je laisse la parole à Robin Lemoine, journaliste indépendant spécialisé en sciences économiques et sociales. Salut Robin.
Salut Emmanuel.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de poireaux, de précarité alimentaire et de budget des ménages.
Imaginez, on est vendredi soir, vous regardez dans votre frigo et dans vos placards. Tiens, tiens, plus grand chose. Alors, le lendemain, vous prenez votre sac cabas et direction votre magasin bio de quartier. Bon, je ne dis pas magasin bio parce que je suis un sale bobo. Quoique, pourquoi ne pas dire supermarché ? Vous allez comprendre juste après. Là, vous faites vos petites courses. Pour les légumes, deux poireaux, une courge, une salade et quelques haricots frais. Vous prenez des pâtes, des pommes de terre, des petits gâteaux et une bonne pièce de bœuf. Une fois les produits scannés, la caissière vous dit
« Ça fera 31,52 €. Vous payez comment ? Espèces ou carte bancaire ?»
Et là, vous lui répondez « Non, je vais plutôt payer en carte SSA ».
Comment ça, carte SSA ? C'est quoi ça ?
Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, là ?
Eh bien, c'est justement de ça dont on va parler dans cet épisode. SSA, c'est pour Sécurité Sociale de l'Alimentation. C'est un projet, une idée qui vise à limiter, voire éliminer la précarité alimentaire et permettre à toutes et tous d'accéder à une alimentation choisie et de qualité. L'idée, allouer à tout le monde un montant d'argent que nous pourrons dépenser uniquement pour acheter de la nourriture conventionnée. On reviendra un peu plus tard sur le terme conventionné. Mais alors, à ton avis, Emmanuel, pourquoi je te parle de cette proposition aujourd'hui ?
J'imagine que c'est parce que le prix de l'alimentation explose, tout comme la précarité alimentaire, et que c'est difficile pour les agriculteurs qui gagnent mal leur vie.
Exactement. Mais ce n'est pas tout. Allez, on vous emmène dans les assiettes et les champs français. La sécurité sociale financera-t-elle nos courses ? Bon, vous le savez sûrement, mais en ce moment, pour beaucoup de gens, se nourrir, c'est la galère. D'abord parce que c'est cher, très cher. Selon l'INSEE, en seulement un an, le prix de la bouffe a augmenté en moyenne de 13,6%.
C'est nul !
Et l'autre problème, c'est que tout a augmenté, et notamment l'énergie. Plus 16% sur un an. Alors les Français rognent sur les loisirs, leur santé, mais aussi sur ce qu'ils mangent. Et ils rognent beaucoup. Toujours selon l'INSEE, la consommation alimentaire française a baissé de 4,6% en 2022. Une baisse record depuis 1960.
Pas mal, non ? C'est français.
Conséquence ? Eh bien, la précarité alimentaire explose et les demandes d'aide aussi. Depuis 2020 et la crise Covid, toutes les associations tirent la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, d'après l'INSEE, entre 3,2 et 3,5 millions de Français dépendent de l'aide alimentaire. Une aide qui touche tous les milieux, étudiantes et étudiants, sans emploi, retraités et même parfois des travailleuses et travailleurs. J'en ai discuté avec Nicolas Brica, qu'Emmanuel avait déjà reçu chez Splash. Il est chercheur en socio-économique de l'alimentation au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde.
L'INSEE vient d'essayer d'estimer à peu près le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire, estime qu'il y a entre 3,2 et 3,5 millions de gens qui ont recours à de l'aide alimentaire. Bon, c'est toujours très, très dangereux. Enfin, il faut vraiment prendre ces chiffres avec des pincettes parce que il peut y avoir des gens qui vont chercher de l'aide alimentaire occasionnellement et d'autres qui sont effectivement très dépendants de l'aide alimentaire pour se nourrir. Donc, le nombre de bénéficiaires, c'est toujours un peu compliqué. Le Secours catholique et d'autres ONG considère que le nombre de gens qui sont en situation de grande difficulté pour arriver à se nourrir est bien supérieur à ce chiffre du recours à l'aide alimentaire, en particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des grandes difficultés pour se nourrir, mais qui ne vont pas pour autant à l'aide alimentaire, ce qu'on appelle le non-recours. Le non-recours, on sait qu'il augmente. Alors on sait qu'avec la hausse des prix des produits alimentaires, et ben du coup, un certain nombre de gens qui avaient du mal à boucler les fins de mois, qui faisaient très attention, ben en fait, peuvent se retrouver tombés dans des situations de précarité alimentaire. Ils n'iront pas forcément tous à l'aide alimentaire pour autant. Ils vont aller dans les épiceries sociales, ils vont essayer de se débrouiller, ils déploient aussi beaucoup de tactiques. Ben, du coup, ils vont aller en hard discount ou dans les rayons de hard discount des supermarchés. Alors qu'ils n'y allaient pas, ils vont changer leur régime alimentaire, ils vont réduire l'usage de produits chers et ils vont se rabattre sur des produits moins chers ou sur des produits de moins bonne qualité.
Outre les bénéficiaires de l'aide alimentaire, le Conseil national de l'alimentation estime qu'en 2015, 8 millions de Français étaient en insécurité alimentaire. Alors imaginez aujourd'hui. Conclusion, les plus précaires ont du mal à se nourrir et en plus de ça, ils n'ont pas accès à de l'alimentation de qualité. Que ce soit parce qu'ils ne peuvent pas en acheter, par manque de moyens. Oui, le bio coûte encore plus cher que le conventionnel, environ 30% de plus à consommation équivalente. Et parce que l'aide alimentaire ne donne que très rarement de bons produits.
J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi.
Ici, il faut souligner que l'aide alimentaire est absolument indispensable et que personne ne remet cela en cause, surtout aujourd'hui. En revanche, son fonctionnement et les produits qu'elle fournit posent question. D'ailleurs, en 2019, un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS, fustigeait la complexité de l'aide alimentaire, sa dépendance aux grandes surfaces et la qualité des produits auxquels elle donne accès. Et puis surtout, l'aide alimentaire sous forme de colis et de repas retire aux bénéficiaires une chose essentielle, le choix. Que ce soit pour des raisons d'envie ou culturelles, tout le monde n'aime pas les mêmes choses, ou de santé, certains ne peuvent pas tout manger.
Et du côté des producteurs, on sait que la situation n'est pas meilleure.
Oh là non ! Selon l'INSEE, 22% des agriculteurs se trouvent en dessous du seuil de pauvreté. En plus de ça, l'endettement moyen de ces derniers a explosé ces dernières années, passant de 50 000 euros dans les années 80 à environ 190 000 aujourd'hui. Un travail dur qui épuise les corps et fait mal à la tête. Tout ça pour être endetté et mal rémunéré.
Les calculs sont pas bons, Kevin.
Ah, si, y a plus de
c'est vie. Quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin.
Ainsi, le risque de suicide chez les agriculteurs est supérieur de 40% à celui de l'ensemble de la population. Et dans le même temps, l'agriculture conventionnelle pollue et fait mal à la nature. Ce secteur représente environ un quart des émissions de gaz à effet de serre françaises. De plus, l'agriculture conventionnelle et ses intrants, pesticides ou engrais, font du tort à la biodiversité et mettent une forte pression sur les sols et les ressources, comme l'eau. Nicolas Bricat.
Aujourd'hui, on est sur on pourrait dire une forme de contrat social dans lequel on cherche à produire, on a cherché à produire l'alimentation la moins chère possible. Et pour cela, on a fortement intensifié l'agriculture avec des ressources non renouvelables, avec une main-d'œuvre très précarisée, avec une production de masse qui permet des économies d'échelle. C'était ça le contrat social, produire l'alimentation le moins cher possible. Et puis, bien sûr, il y a des entreprises qui, elles, ciblent une population à plus fort pouvoir d'achat et qui font des produits de qualité. Et des produits, effectivement, qui sont respectueux de l'environnement, respectueux du bien-être animal, mais mieux rémunérateurs, mais qui font payer cette alimentation, bien sûr, plus cher et qui, du coup, une alimentation, on va dire, de qualité qui n'est réservée qu'à des gens qui ont plus de pouvoir d'achat. Le principe, aujourd'hui, il fonctionne comme celui-là, comme ça.
Bon, d'accord. Difficile de voir du positif là-dedans. Mais alors, on fait quoi ?
Bon, bien sûr, des solutions, il en existe plein. Et puis, certains experts peignent un tableau bien moins noir de la situation actuelle. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous décrire une proposition. La sécurité sociale de l'alimentation. Pourquoi celle-ci ? Eh bien, parce qu'elle est défendue par de plus en plus d'agronomes, d'associations et de politiques, notamment par les écologistes. Le projet est porté par le collectif Pour une sécurité sociale de l'alimentation. Alors, pour commencer, présentons ce système et les objectifs qu'il souhaite atteindre. J'en ai discuté avec Sarah Cohen, ingénieure agronome, coprésidente de l'association membre du collectif Ingénieurs sans frontières Agrista.
Le système alimentaire, il doit répondre à trois objectifs qui sont, un, assurer le droit des travailleurs du système alimentaire, donc une rémunération juste, des conditions de travail correctes, le droit à l'alimentation, c'est-à-dire permettre à tous d'avoir accès à une alimentation qui soit de qualité, choisie en quantité suffisante, et de préserver les conditions de vie sur Terre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc, la sécurité sociale de l'alimentation, l'idée, c'est d'étendre le régime général de sécurité sociale à une branche alimentation qui soit financée par de la cotisation sociale et qui permette d'attribuer 150 euros par personne et par mois pour une alimentation conventionnée et que ce conventionnement soit fait au sein de caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation, donc composées de citoyens, qui définissent en connaissance de cause les critères de conventionnement. Et donc, ils choisissent les professionnels qui vont, du coup, être conventionnés par les caisses et donc auprès desquels on pourra dépenser les 150 euros. Et donc, je précise que ces 150 euros, c'est un montant qu'on avait défini avant l'inflation et qui serait nécessaire de revoir à la hausse aujourd'hui.
Petite précision ici, si ce montant est gardé, ça représenterait une part conséquente de ce que dépensent les Français pour manger. En moyenne, ce montant est évalué à 225 euros par mois et par personne. Donc 150 euros par mois, c'est considérable. Donc rien de plus simple dans l'idée. Il y aurait donc la branche famille, maladie, accident du travail, retraite, dépendance et alimentation. L'objectif est donc triple. Permettre à toutes et tous d'avoir accès à une bonne alimentation, permettre aux petites agricultrices et agriculteurs d'être payés au juste prix, et enfin, via cet incitant à produire de la nourriture de qualité, d'organiser la transition agricole.
Attends, si j'ai bien compris, ce sont les citoyennes et citoyens qui vont décider des producteurs, distributeurs, transporteurs, conventionnés ? Leurs produits pourront alors être achetés avec ces 150 euros. Mais c'est pas du tout sûr que les citoyens décident de conventionner le bio ou le local. Ils vont peut-être conventionner McDo ou Lidl.
Bien joué, les gars.
Alors oui et non. Certes, les critères de conventionnement et les professionnels conventionnés seront décidés à l'échelle locale, mais on peut imaginer qu'en amont ou en aval, un certain nombre de critères soient harmonisés ou imposés au niveau national, et notamment des critères qui touchent à des enjeux globaux comme la pollution des eaux et des terres ou encore des enjeux liés au réchauffement climatique ou à la santé. Et puis, les défenseurs de cette proposition font confiance à la démocratie citoyenne et à l'éclairage scientifique. Nicolas Bricat.
Dans les expériences de débat démocratique avec les citoyens comme les conventions citoyennes pour le climat, les citoyens font appel à des experts, ont besoin d'une information contradictoire et fiable, scientifique, et c'est aussi comme ça que ça fonctionne et que les expérimentations aujourd'hui le font, c'est-à-dire c'est pas uniquement des citoyens qui débattent sans rien, sans base, c'est des citoyens qui débattent, mais aussi sur la base d'une information scientifique qui permet de rendre compte des effets actuels des systèmes alimentaires, des effets potentiels de nouveaux choix qui pourraient être faits, et qui donc, c'est un débat citoyen, c'est un débat public, éclairé par des résultats scientifiques.
En bref, l'idée est bien de remettre de la démocratie dans l'alimentation, de laisser la possibilité aux citoyens et citoyennes de décider ce qu'ils souhaitent manger et produire.
D'accord. Juste une question, Romain. Quels sont les citoyens qui auraient le droit à ces 150 euros ? Tout le monde, du coup ?
Eh bien oui, et aussi bien les plus riches que les plus pauvres. Pourquoi ? Eh bien notamment pour que les plus pauvres ne soient pas encore une fois stigmatisés. Nicolas Bricat.
Le principe est pour absolument tout le monde, que ce soit les plus riches ou les plus pauvres. Il est universel. Et comme on n'a pas de honte à aller avec sa carte vitale à la pharmacie chercher des médicaments ou chez le médecin pour se faire examiner et soigner, eh ben il n'y a pas de honte à utiliser une carte qui permet d'avoir accès à ce budget.
Mais aussi parce que l'idée est bien de changer le comportement alimentaire de tout le monde pour engager une véritable transition agricole.
L'enjeu, c'est pas de transformer le système alimentaire uniquement par un avis ou la construction d'un conventionnement par les plus pauvres. L'enjeu, c'est bien que l'ensemble de la société, des plus riches aux plus pauvres, des plus jeunes aux plus vieux, etc., débattent et décident de l'alimentation qu'ils veulent pour eux et pour leurs enfants demain. Et que ça se fait dans le cadre d'un débat démocratique.
D'accord, mais ça va coûter cher tout ça, non ?
Eh bien, le collectif estime que pour donner 150 euros par mois à tout le monde, plus les frais de gestion, la SSA aurait besoin de 120 milliards d'euros. En gros, il faudrait augmenter les recettes de la sécurité sociale de 20%, ce qui est considérable. Pour financer tout ça, ils souhaitent augmenter l'assiette de cotisation de 10%. L'idée est soit d'augmenter les cotisations salariales, patronales ou les deux. Pour le moment, ces questions sont encore en chantier.
Mais si demain on décide de mettre en place ce dispositif, que tout le monde a accès à 150 euros pour manger seulement de la nourriture bio ou du moins locale, eh bien, ce type d'agriculture vertueuse, raisonnée, n'aura pas du tout la capacité de produire pour 120 milliards d'euros aussi.
Oui, tu as raison. C'est même Sarah Cohen qui le dit.
Effectivement, si aujourd'hui, toutes les caisses locales, elles souhaitent du bio et du local, bah, on va pas pouvoir le produire. Enfin, on va pas pouvoir répondre à cette demande parce que la production, elle est complètement insuffisante en France.
C'est pour ça qu'il va falloir investir lourdement dans la transition agricole. Et ces investissements ne sont pas compris dans les 120 milliards. Il faudra donc encore de l'argent. Selon certains membres du collectif, on pourrait aussi baisser le montant de 100 euros et allouer le reste aux producteurs, transformateurs et distributeurs qui souhaitent engager une vraie transition. Sarah Cohen.
Bien sûr, mettre en place la sécurité sociale de l'alimentation, c'est pas juste mettre en place le prélèvement d'une cotisation, c'est aussi repenser les politiques agricoles alimentaires, réorienter, réfléchir aussi tous les financements qui existent déjà pour la production alimentaire, la transformation et la distribution. Là, les propositions qui sont faites, c'est bon, déjà d'une part d'inscrire la mise en place de la sécurité sociale de l'alimentation dans une réorientation globale des politiques agricoles et alimentaires. et notamment de la politique agricole commune, mais pas que.
Dans un premier temps, on peut aussi imaginer que les critères soient moins stricts pour ensuite les faire évoluer. Faudra-t-il inclure dans un premier temps les grandes surfaces tout en les obligeant à changer de fonctionnement ? Peut-être. On rappelle ici qu'environ 70% des achats alimentaires se font en supermarché ou en hypermarché.
Ah oui, donc avec les investissements, ça va coûter encore plus cher. On est d'accord que le gouvernement actuel n'envisage pas cette proposition.
Alors oui, le montant semble élevé. On peut espérer en revanche des bénéfices sociaux grâce à une meilleure santé de la population, donc des réductions de dépenses côté assurance maladie. On peut aussi penser aux bénéfices environnementaux. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, le gouvernement ne va pas dans le sens d'une telle proposition. Car depuis 2017, Emmanuel Macron n'a Dieu que pour les baisses d'impôts. Et comme on le voit actuellement avec la réforme des retraites, il est hors de question pour lui et ses acolytes d'augmenter les cotisations sociales.
Alors ne cédons pas à cela ! Alors ils ne passeront pas ! Alors moi, je n'en veux pas ! Pas ça ! Pas ça ! Pas ça !
Et l'idée même de la SSA ne plaît pas trop en haut de l'État. En 2020, la Convention citoyenne pour le climat avait proposé un mécanisme similaire, quoique plus modeste. Le chèque alimentaire durable. Réponse du gouvernement, trop complexe à mettre en œuvre. L'idée a été enterrée au profit d'un fonds pour l'alimentation durable de 60 millions d'euros. Pourquoi faire ? Pour le moment, c'est un peu flou. Et puis, cette proposition pourrait être bloquée autre part, notamment au niveau européen.
Ah bon ? Et pourquoi ça ?
Eh bien parce que tout ce mécanisme de dépenses ciblées perturbera forcément le fonctionnement du marché alimentaire et le jeu de la concurrence. Et l'Union européenne n'aime pas ça.
J'aime pas trop beaucoup ça.
D'abord, parce que pour que les agriculteurs sortent aussi gagnants, les prix ne seraient pas déterminés par le marché, mais par des accords conclus entre les autorités de la SSA et les pros. Et selon le TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et son article 101, ce genre d'accords tarifaires qui faussent la concurrence sont interdits. Ou du moins quasiment interdits. Mais aussi et surtout, parce que cela pourrait être considéré comme des aides d'État qui feraient mal à la concurrence. Sauf que voilà ce que dit en résumé l'article 107 du TFUE. Les aides d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sont incompatibles avec le marché intérieur.
Ah oui, donc c'est mort.
Alors, pas tout à fait. La raison, selon le TFUE, les systèmes nationaux de protection sociale sont du domaine des services non économiques d'intérêt général, donc pas ouverts à la concurrence. Et surtout, la Sécu relève de la compétence des États. L'alimentation de qualité peut-elle entrer dans la Sécu sociale ? À voir. En clair, c'est une bataille politique à mener. On pourrait le faire notamment en disant que l'alimentation de qualité est la première pierre de la santé publique, domaine où les États sont encore souverains. Et puis, ces dernières années, la Commission européenne ne s'est pas opposée au chèque énergie allemand ou au bouclier tarifaire en France, alors que ce sont des aides d'État. En décembre dernier, l'Université libre de Bruxelles a publié une étude sur la SSA et répond notamment à ces questions européennes. Selon elle, plusieurs pistes juridiques et pratiques pourraient être envisagées pour faire passer la SSA. Mais en gros, la conclusion est, il faudra demander à la Commission européenne.
Bon d'accord, donc entre le coût de la mesure et les barrières européennes, on voit que ça va être compliqué en l'état. Mais d'ailleurs Robin, la SSA a déjà été mise en place à des échelles locales.
Tout à fait. Dernièrement, c'est à Montpellier qu'on expérimente la SSA. Le principe ? Chaque participant cotise pour une caisse selon ses moyens. En échange, il reçoit 100 euros par mois, utilisables dans des commerces conventionnés. Au cœur du dispositif se trouve un comité citoyen composé de 47 membres qui définissent ensemble les conditions et critères de conventionnement. Ces 47 seront les premiers à expérimenter la caisse avant que le dispositif soit élargi en avril à 200 ou 300 personnes. En plus des cotisations, le collectif reçoit le soutien de la métropole et de la ville qui apporte 45 000 euros. Même chose du côté de Bordeaux, où une expérimentation devrait bientôt voir le jour. En effet, les élus écologistes veulent créer sur leur territoire une carte vitale de l'alimentation qui donnera accès à des produits conventionnés. Bref, tu le vois Emmanuel, cette idée est en train de prendre de l'ampleur. Mais de là à organiser la SSA à l'échelle nationale ? Possible, mais compliqué.
Merci Robin pour ce bel épisode sur cette proposition qui permet d'ouvrir le débat sur le droit à l'alimentation. À titre personnel, je ne suis pas entièrement convaincu que le droit à l'alimentation doive être contrôlé par un comité de personnes cooptées. Je pense que les solutions de marché ont parfois du bon et qu'on pourrait laisser les gens choisir l'alimentation qui leur plaît. Mais bon, faire de la nourriture un problème de santé publique avant tout, c'est une excellente idée et ça mérite qu'on y mette un peu d'investissement. Si vous voulez plus d'infos sur le sujet, on vous invite à vous rendre sur le site du collectif Pour une sécurité sociale de l'alimentation. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Robin Lemoine, en compagnie d'Emmanuel Martin. Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'Arrière Boutique Studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin. Produit par Julien Neuville, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice des productions Marion Gourdon, directrice artistique Aurore Mailleux, chargée de production Mathilde Jonin avec l'aide de Neila Acmi.